10h22 minutes dans le point de Max à Boulevard 102.1, 418-971-102.1, le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. N'hésitez jamais à le faire, toujours un plaisir de vous lire. Même Hugo là, qui me dit qu'il était là samedi au karaoké, puis que je prends trop de place, puis que je respecte pas l'étiquette de karaoké. T'as en partie raison, Hugo, mais en même temps, c'est le bar qui décide quand ils me font passer, là. Oui, je mets mon nom. Mais...
Il pourrait décider de pas écouter tes moyens de pression, oui, pas te faire chanter.
Oui, il pourrait, mais désolé Hugo si je t'ai empêché de chanter. Prochaine fois, viens me jaser. On chantera une toune ensemble. 418-971-1021, donc le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. C'est évidemment une tragédie ce qui se passe du côté du Venezuela. Venezuela, un pays qui l'avait déjà pas facile là, dans les derniers mois. Beaucoup de chamboulements au niveau politique et là des séismes qui ont frappé dans les derniers jours. Nouvelle secousse aussi ce matin. Quand on dit qu'ils n'ont pas de break, là, on dit OK, là, on est encore à essayer de ramasser puis de faire le bilan de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Puis là, ce matin, nouveau séisme. On va en parler avec Carlos Burgas, qui est un Vénézuélo-Québécois qui a vécu les séismes au Venezuela. Monsieur Burgas, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je comprends que vous êtes toujours là, sur place au Venezuela?
Oui, exactement. Je suis à Valence, qui en fait c'est Valencia, qui c'est en fait c'est plus proche à l'épicentre, mais malheureusement la situation la plus compliquée c'était avec Caracas et puis La Guaira.
Là, je parlais des deux séismes plus importants des derniers jours. On est encore à faire les bilans. Ce qui s'est passé ce matin, là, on parle d'une nouvelle secousse là, de magnitude 4.6. Est-ce que vous l'avez ressenti?
Oui, et en fait, j'étais dans la voiture, mais j'ai plein de personnes ici qui l'ont senti, oui, mais c'était pas aussi fort comme celui-là de mercredi. Mais j'ai déjà entendu, je ne sais pas si celui-là d'aujourd'hui exactement, mais après les plus forts, les mercredis, il y a eu des petites sismes qui en fait ont fini de faire collapser des bâtiments parce qu'ils déjà sont brisés.
Non, c'est ça, parce que là, je voyais que le nombre de bâtiments touchés est assez impressionnant, mais au-delà de ça, il y a des bâtiments qui sont complètement détruits. Là, fait qu'on est encore dans les débris de tout ça. On essaie de retrouver des survivants. Par contre, là, plusieurs jours après, comme ça, c'est malheureusement plus des corps qu'on va retrouver. L'ambiance est comment? Hein? Avec un bilan qui continue de s'alourdir, quand on se promène comme ça au Venezuela, l'ambiance ressemble à quoi?
Oui, c'est en fait, c'est vraiment compliqué, mais je vois toujours de l'espoir et tous les peuples, ils sont très unis. Je suis allé en Caracas, on a essayé de descendre à La Guaira pour aider, mais c'est compliqué aller en bas, spécialement, ils laissent descendre seulement des rescatistes, des choses comme ça, mais on a mené dans un gros camion avec la famille de ma copine, beaucoup de médicaments, des vêtements, de nourriture, et plein de choses. Et en Caracas, il y a beaucoup de centres pour recevoir les personnes et vraiment, et tous les efforts, les plus grands efforts sont les mêmes peuples. Les personnes d'ici qu'elle le fait, ça me met heureuse. Et aussi, il y a plein de rescatistes internationaux. Et le gouvernement actuel, les plus choses qu'ils font sont faire l'interdiction pour, comme un freiner, pour pas permettre les organismes internationaux arriver. Des fois, c'est très frustrant. Parce que je penserais que le gouvernement des pays, c'est celui-là, celui-là qu'il faut agir le plus vite. Mais malheureusement, c'était pas le cas comme ça. Il y a des pompiers, il y a des petits organismes policiers qui, oui, font ça. Mais la majorité de l'organisme de gouvernement, ça semble qu'en fait, ils vont contre tous les efforts de les personnes internationales.
C'est ça. Donc, ce que vous dites, c'est que l'aide provient majoritairement du peuple, de l'international aussi, mais que le gouvernement en place fait pas grand-chose et même bloque l'aide d'ailleurs.
Exactement, ça c'est les mots. Par exemple, aujourd'hui, je vois une vidéo qu'un avion voulait rentrer et il dit, vous n'êtes pas autorisé. Et l'avion a dit, je comprends pas. Il a toujours rentré parce qu'il avait commandé des médicaments et des choses comme ça. Je ne sais pas exactement jusqu'à quel point, mais c'est celui-là, les choses que j'ai entendues sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais ça vraiment, ça m'impressionne pas parce que ça fait 30 ans qu'ils sont comme ça. Et quand il faut faire des répressions, ils sont là tout de suite, avec toutes les choses. Mais avec des choses naturelles, c'est plus compliqué.
Ben, c'est terrible d'entendre ça, que le gouvernement, entre guillemets, vous nuit plus que d'autres choses presque actuellement. Il doit avoir une certaine frustration au sein de la population par rapport à ça.
Oui, non, mais absolument, absolument, parce que tout le monde dit la même chose, que si quand était le moment qu'on voulait faire des protestes pacifiques, la répression arrivait tout de suite, mais immédiatement. Et maintenant qu'il y a une catastrophe naturelle, et des fois on sent beaucoup de frustration parce que peut-être il aide, mais on voit pas ça. On voit dans les réseaux sociaux, sont les choses qu'il bloque. Des fois, je suis certain qu'il y a des personnes dans la police et les militaires qu'il veut aider. Mais l'ordre vient en dessous et des fois c'est compliqué de savoir toute l'histoire. Parce que par exemple, le jour, je vois en vidéo qu'apparemment, en policier, il dit ne filme pas, sinon je veux t'amener dans les Sémans, que c'est comme l'organisation policière. Mais après, j'ai entendu toute la nouvelle et c'était parce que la personne était en train de filmer un décédé. Alors les policiers ont dit filme pas ça, mais ils ont mis dans l'histoire juste la part qu'il convenait pour faire. Donc, il y a deux faces de l'histoire, mais pendant les dernières 30 ans, 30 années, c'est plutôt le gouvernement qui bloque, qui fait des choses contre les peuples. Donc, ça ne me surprend pas.
Est-ce qu'il y a encore de l'espoir au niveau de retrouver des survivants? Parce que là, c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes disparues. Et là, malheureusement, le temps file après autant de jours. Je le disais d'entrée de jeu, c'est la triste vérité. C'est plus des corps qu'on va retrouver que des survivants. Comment ça va au niveau de l'espoir de retrouver? Je ne sais pas si vous avez des proches qui sont malheureusement disparus ou si vous connaissez des gens qui sont disparus, mais est-ce qu'on garde espoir?
Ok, je vous réponds les deux questions. L'espoir, c'est la dernière chose qu'on perd parce qu'il y a comme personne dit que 72 heures, c'est le maximum pour retrouver des corps. Ce matin, je viens de voir que les rescatistes mexicaines, je pense salvadoriennes et colombiennes, peut-être, ont retrouvé encore en personne avec vie et ça faisait 106 heures et c'est toujours avec vie. Donc, l'espoir, on ne le perd jamais. Et oui, on a eu un bon ami proche à la famille qui était dans son bâtiment avec sa femme et sa fille, qui a collapsé et on trouvait les corps, mais sans vie. Mais aussi, il a explosé du gaz. Donc, les corps sont étaient presque irréconnaissables et on ne pouvait pas les reconnaître. Donc oui, on était affecté aussi, mais je pense que plein de monde avaient des familles là-bas. J'ai un ami qui est allé, il a aidé à prendre des de personnes, il a retrouvé 12 corps, de lesquels seulement deux avec vie. Mais celui-là, ces deux avec vie, ça nous aide à garder l'espoir toujours. Il faut continuer.
Puis pour les recherches qui ont lieu, on avait vent comme quoi, présentement, il y avait beaucoup de recherches que c'était simplement avec les mains, qu'il fallait des débris parfois énormes, fallait tout simplement les déplacer avec les mains. Est-ce que vous avez accès à certains outils ou c'est vraiment seulement avec vos mains que vous devez faire ces recherches-là?
Maintenant, heureusement, tous les rescatistes internationaux sont là, ils ont des chiens. Les chiens aident beaucoup parce qu'ils peuvent sentir les personnes et aussi des des camions grands qui prennent des choses parce qu'il faut aller niveau à niveau parce que si on enlève quelque chose d'en bas. Mais les premières heures, les premiers jours, c'était à la main plutôt parce que ici, le pays, ce n'est pas préparé pour une chose comme ça. Et c'était vraiment les personnes qui aidaient, mais c'est difficile. Mais maintenant, heureusement, on a des de l'extérieur qui ont les choses nécessaires et aussi pour sentir comme des instruments pour comme ressentir les chaleurs du corps et choses comme ça qui sont professionnelles. Mais avant ça, c'était plutôt à la main, peut-être un petit peu. Mais dans les bâtiments où on avait notre ami, ça passait presque 48 heures jusqu'à quelqu'un y aller là-bas. Donc oui.
Je sais qu'on n'est pas rendu là, on est encore à l'heure du bilan et tout ça, mais quand même, vous devez y réfléchir, tu sais, de vous dire, OK, maintenant, ce sera quoi la suite? Quand on aura terminé de faire les bilans, qu'il y aura moins de disparus, qu'on aura pu vraiment avoir les bons chiffres par rapport à tout ça, comment on va reconstruire avec toute l'instabilité du côté du gouvernement? Comment vous gardez espoir pour la suite des choses, pour la reconstruction?
Une des choses avec lesquelles je suis très reconnaissant, c'est que les pauvres Vénézuéliens ont toujours n'importe quoi. Ils disent en phrase que c'est palante, comment on y va. Toujours on va en avant, toujours en avant. Et en 1999, il y a eu une catastrophe aussi à La Guaira, et qui ont décédé presque 20 000 personnes. Et toujours on a pu reconstruire. J'espère que ça, c'est la fin d'un cycle terrible du gouvernement aussi, parce que ça, c'est où, maintenant, on voit une catastrophe, mais dans les dernières 30 années, c'était aussi une vraie catastrophe. Venezuela était un pays pétrolier avec tous les records, avec les plus réservoirs de pétrole et du gaz dans le monde, et maintenant, on produit presque rien par la malconduction. Et ça s'est affecté aussi parce que toutes les constructions ont été pas bien faites et il n'y a pas de ressources pour aider les personnes. Mais je suis certain que tout ça va nous unir, nous mettre tout ensemble encore plus fort pour continuer.
Carlos Burgas, un Vénézuélo-Québécois qui a vécu les séismes au Venezuela. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Je vous souhaite le meilleur à vous, à vos proches, à votre famille.
Merci beaucoup et merci à vous pour le temps.
Merci beaucoup. Bye-bye. Assez frappant là, de parler à quelqu'un qui est là, qui... tu veux pas, il y a tellement de gens touchés. C'est sûr que tu as des gens autour de toi qui malheureusement sont disparus ou que tu as des proches qui ont été retrouvés sans vie. T'sais, nous autres, on peut pas s'imaginer ça, là. T'sais, on ne peut pas. Une catastrophe naturelle de cette ampleur-là au Québec, avec autant de morts, autant de disparus, autant de... Ça se peut pas. On peut pas se l'imaginer.
Puis la phrase de dire « l'espoir, c'est la dernière chose qu'on perd », on peut pas perdre l'espoir. C'est presque ça le message. Si on perd l'espoir, on n'a plus rien. Ça vient chercher, puis... C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte, oui, il y a certaines choses qui ne vont pas bien ici, puis, tu sais, en politique, on est très critique, on s'imagine toujours le pire, sauf que maudit qu'on est chanceux de vivre ici, quand on regarde des situations que d'autres vivent en ce moment, dans des catastrophes naturelles comme ça, là. Nous ici, normalement, là, à moins d'une catastrophe, on ne devrait jamais vivre une situation comme ça, puis on est chanceux.
Puis bon, ça fait un peu un lien, veut pas, avec notre prochain invité au retour de la pause, Georges Mercier, analyste politique international. Une autre affaire que nous, on devrait pas vivre, ben, c'est des bombes qui nous tombent sur la tête, puis qui, comme en Iran depuis plusieurs semaines déjà. Et là, ben, c'est reparti de plus belle, avant que là, bon, là, ça a l'air qu'ils vont se rencontrer demain, États-Unis-Iran, là. Et puis là, ça dépend à qui tu parles. Donald Trump qui dit l'Iran a demandé une rencontre, on va les rencontrer. Côté de l'Iran, sont pas sûrs à savoir s'il va en avoir une rencontre.
Ben en fait, même eux autres, leur ligne, présentement, c'est aucune réunion entre l'Iran et les États-Unis n'est prévue cette semaine.
Mais encore là, on revient à ce qu'on dit depuis le début, c'est que, bien qu'on le sait plus, c'est qui a le pouvoir en Iran. Tu sais, t'as les plus extrémistes qui sont là, puis qui ont théoriquement, en effet, le pouvoir, mais t'as des gens plus dosés, je vais le dire de même, qui sont positionnés à certains niveaux aussi. Puis là, c'est peut-être eux qui acceptent de rencontrer les États-Unis. Mais eux ont-ils vraiment le pouvoir de faire changer les choses? Bref, on va éclaircir tout ça avec Georges Mercier dans les prochaines minutes. Vous écoutez Le Point de Max à Boulevard 102.1, 10h36.
Le Point de Max.